parole. Et je vais vous lire deux textes, un texte qui va être repris cet après-midi, un peu un texte qu'on a choisi pour le baptême de Pierre, le passage connu de la visite de Nicodème à Jésus. Et je vais lui accoler un autre texte qui m'est cher et que vous m'avez sans doute déjà entendu évoquer au mieux, dans Ézéchiel chapitre 36. Donc Jean 3 d'abord. Jean 3, verset 1 à 18. Vous pouvez trouver dans vos Bibles, sur votre smartphone. Vous avez le droit aussi de vous contenter d'écouter la parole être lue et proclamée. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu. Parce que personne ne peut faire les signes extraordinaires comme tu en as accompli si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Oui, je te le déclare, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le règne de Dieu. Nicodème lui demande « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Est-ce qu'il pourrait retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit « En vérité, je te le déclare, personne ne peut rentrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit, de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné que je te dise, il vous faut tous naître de nouveau. L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Voilà comment ça se passe pour toutes les personnes qui naissent de l'esprit. Nicodème reprit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, Tu as un maître qui enseigne Israël et tu ne sais pas ça. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons des choses que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre. Vous ne m'avez pas cru. Comment me croirez-vous donc lorsque je vous parlerai de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Et tout comme Moïse a été élevé le serpent de bronze dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jusqu'ici, la parole de Dieu. L'autre passage que je veux vous lire dans Ézéchiel, chapitre 36, au verset 24. Ézéchiel 36, verset 24, jusqu'à 28. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Sur Terre, on a un problème. Même plusieurs, mais on va dire un gros. C'est la souffrance et le péché. Ça va, vous comprenez ça. Personne ici n'a jamais souffert. Personne ici n'a jamais été confronté à de l'injustice, à de l'abus. Tout le monde a connu les choses déréglées qui existent sur cette terre, que ce soit dans les cours de récréation, que ce soit au travail, que ce soit au sein d'une famille. Il n'y a pas un endroit sur la planète qui n'est pas affecté par le mal. Dieu avait confié à l'humanité de bénir et de féconder la terre il y a très longtemps. Ça ne s'est pas bien passé. Alors Dieu a choisi une famille, celle d'Abraham, avec laquelle il a conclu une alliance en disant « à travers toi, toutes les nations du monde seront bénies ». Et à travers lui, ça voulait dire aussi à travers sa descendance, et vous connaissez l'histoire, la descendance d'Abraham, c'était le peuple d'Israël. Mais il y a eu un bouchon. Le conduit qui devait arroser toute la création, toutes les nations, s'est un peu bouché. Israël n'a pas été fidèle à Dieu. Au moment où Israël rentre en possession du pays promis, vous connaissez Jéricho, tout ça, Moïse fait stop, on va tout reposer bien à plat. Et il écrit un gros livre qui s'appelle le Deutéronome, dans lequel il réexplique tout le projet, toute la loi, toutes les règles, tout ce qui va être utile pour voilà, vivre cette vocation d'être une bénédiction pour toutes les nations. Et à la fin, il y a une révélation, il prophétise, il annonce quelque chose de la part de Dieu. Il dit, bon, vous allez finir par adorer tous les dieux qui vous entourent sauf l'Éternel. Vous allez finir par vouloir copier toutes ces nations que vous devez bénir en pensant que c'est elles qui vont vous bénir. Et vous allez vous détacher de l'Éternel. Et il va vous avertir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout d'un moment, en fait, il va vous chasser du pays. Et vous allez vivre avec ces faux dieux. Vous allez vivre sous ces empires-là qui vous fascine. Et là, vous vous souviendrez de moi. Et vous savez quoi? À ce moment-là, je vous ramènerai. Et bien, le texte qu'on a lu en Ézéchiel raconte exactement ce moment-là. Ce moment où Dieu ramène Israël de l'exil. C'est aussi le moment où Dieu va faire sauter le bouchon. Le bouchon qui empêche quoi? La bénédiction qui devait couler par la descendance d'Abraham de se propager à toutes les nations. Il fallait que le péché d'Israël soit expié. Il fallait que Israël soit restauré dans sa vocation pour que cette bénédiction puisse à nouveau couler. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Christ est mort pour nos péchés, nous dit Paul, selon les Écritures. Il a accompli ce grand pardon, il a levé cet exil, parce que le peuple juif était encore en exil, même s'ils habitaient à Jérusalem, même s'ils habitaient en Palestine, ils étaient sous une tutelle d'un empire. Ils n'étaient pas libres, ils n'étaient pas restaurés. Mais Christ est venu, il a levé cet exil, il a libéré Israël, et il a restauré cette vocation d'être une bénédiction pour les nations. Et alors, une fois que Christ a accompli toutes ces choses et a envoyé son esprit, la bénédiction d'Abraham s'est étendue à toutes les nations qui sont sous le ciel. Pourquoi je vous raconte tout ça? On voit en Ézéchiel que Dieu va aller résoudre le problème de fond. On va tous subir une opération chirurgicale majeure et recevoir un cœur de chair, un cœur vivant, pas un cœur de pierre. Dieu va enlever de notre cœur ce cœur de pierre pour mettre son cœur de chair. C'est ce qu'on appelle, d'après le texte qu'on a lu en Jean, la nouvelle naissance. Petite parenthèse ironique. Souvent on dit je donne mon cœur à Jésus. Si on lit bien Ézéchiel, c'est pas à Dieu qu'on donne un cœur, hein. C'est plutôt lui qui nous en donne un autre. D'accord? Limite, ah, je te donne mon cœur, Seigneur. Ah oui, c'est ce cœur de pierre. Écoute, vous savez, chez les médecins ou dans les blocs de chirurgie, il y a ce sac jaune avec un logo danger, déchets, toxiques, machin, truc. Tu vois. Ben, il va le mettre là-dedans. Il va nous en donner un vrai qui marche. Vous pouvez donner votre cœur à Jésus, mais ce qui est surtout important, c'est que vous receviez celui que lui veut vous donner. Et une fois que je reçois son cœur nouveau, qui fait cette aspersion d'eau, qui met en moi son esprit, je suis rendu capable d'obéir à ses lois et de vivre son alliance. En fait, je suis rendu capable de vivre la vocation qui avait été adressée à la descendance d'Abraham. En fait, je suis rendu capable de devenir une bénédiction pour les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parfois, on réduit un petit peu trop la signification du baptême, la signification de la nouvelle naissance, et avec tout ça, la signification d'être chrétien. Jésus dit à Nicodème, si tu veux voir le règne de Dieu, Nicodème ne comprend pas trop, donc Jésus reprend, ok, il faut naître d'eau et d'esprit, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Dans le règne de Dieu. Je ne vais pas refaire tout ce que j'avais fait au baptême de Valérie, où j'avais fait tout ce parallèle entre l'eau et l'esprit et la nouvelle création. Vous savez, quand est-ce qu'on voit l'eau et l'esprit qui sont ensemble? Ben c'est au chapitre 1, verset 1 de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais qu'est-ce qu'il y avait? L'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, et tout va apparaître. Quand Dieu déconstruit tout avec le déluge, il n'y a plus que l'arche de Noé qui flotte sur l'eau. Qu'est-ce qui va venir pour faire baisser l'eau? Le souffle de Dieu, le ruach, le vent, l'esprit. Et ça va être recréé. Quand les Israélites sont face à la mer Rouge, qu'est-ce qui va venir ouvrir la mer en deux? Le vent, le souffle, l'eau et l'esprit, l'eau et le vent. Ce sont des thèmes de création, de recréation. Voilà. Et donc, Jésus dit à Nicodème, bon, il faut naître d'en haut. Parce que le mot à nouveau, ça peut aussi vouloir dire d'en haut. Et Nicodème, il dit quoi? Il faut que je retourne dans le vent de la mer? Ben non, alors. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ce que Jésus veut lui dire, il faut être recréé. Ta nature à toi ne peut pas voir rentrer dans le royaume des cieux. C'est comme si je débarquais. Après m'être baigné dans un jus de poubelle, dans une salle de chirurgie, normalement, on me laisse pas rentrer. Parce que je vais contaminer la salle de chirurgie. Si tu prends quelqu'un qui a une nature comme la normale, on va dire, humaine, basique, et que tu le mets dans le royaume des cieux, ça va pas marcher. Alors, c'est pas qu'il va contaminer le royaume des cieux. C'est plutôt qu'il va être désintégré par la sainteté de Dieu qu'il aura à ce moment-là. Comme si je voulais m'approcher du soleil, en fait, je crame. Si je me retrouve dans la présence du Dieu vivant sans qu'il y ait le Christ qui m'ait purifié, qui m'ait pardonné, je disparais. Donc personne ne peut voir le royaume des cieux si il n'est pas rendu compatible. Il faut la mise à jour. Il faut être recréé. Mais j'attire votre attention sur le fait que Jésus ne dit pas à Nicodème personne ne peut aller au paradis sans être recréé, ou personne ne va au ciel sans être recréé. Il dit personne ne peut voir le règne de Dieu ou entrer dans le règne de Dieu. Et si vous vous souvenez bien, Jésus, il a eu une prédication globalement pendant tout son ministère qui se résume à cette phrase: repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Est-ce que le royaume des cieux est là-haut? Oui. Mais est-ce qu'il va venir? Oui. N'est-ce pas ce que Jésus a dit lorsqu'il nous a appris à prier? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Le but de la vie chrétienne, c'est d'avoir son ticket d'entrée pour pouvoir quitter la terre et pouvoir partir au paradis. Vous savez, un peu comme dans ces films de science-fiction où la Terre elle est tellement polluée, puis il y a ces vaisseaux qui vont partir vers une autre planète, et puis il y a les riches qui peuvent se payer le départ, et puis tu as les pauvres qui peuvent pas et tout. Et là, il y a les élus qui vont pouvoir se payer le départ vers les cieux, puis les autres, non. Non. Je crois que l'apôtre Paul, il raconte quelque part en 2 Corinthiens 5, je crois. Le projet de Dieu, c'est pas de quitter la terre. Comment il dit ? Je trouve plus. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde, en grec c'est cosmos, avec lui-même. Est-ce que le but c'est de se débarrasser de la terre pour n'habiter que dans les cieux? Non, le but c'est de réconcilier les cieux et la terre. Réconcilier les cieux et la terre. Ou alors, quand Paul dit « Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en Christ. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Ou alors, comme on a lu « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Pourquoi je dis ça? Parfois, on vit la vie chrétienne avec ce ticket. Ah, j'ai mon ticket d'entrée au paradis. Maintenant, il faut que je tienne bon jusqu'à ce que la navette décolle. Non, maintenant vous êtes la descendance d'Abraham. Donc maintenant la mission qui incombe à la descendance d'Abraham de féconder la terre, de bénir toutes les nations, c'est la vôtre. Pourquoi vous avez été racheté? Pourquoi vous avez été restauré? Pourquoi vous avez été transformé en une nouvelle créature? Mais pour faire vivre le monde nouveau maintenant, sur terre. Jésus va revenir. Le règne des cieux va démarrer un jour, je ne sais pas quand, sur la terre. Et nous, par l'Esprit, nous jetons les fondations maintenant. Oui, vous irez dans les cieux, probablement, peut-être. Mais pour être franc et un peu trivial, ce sera la salle d'attente. Ça sera génial. On sera dans la présence du Seigneur avec tous ceux qui attendent avec nous jusqu'au jour où les morts ressusciteront. Donc notre perspective, c'est pas d'attendre. Notre perspective, c'est de commencer ici et maintenant à être les témoins du fait que Jésus règne. Jésus règne. Oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Ah, on ne voit pas encore qu'il règne », mais il dit quand même qu'il règne. Jésus, quand il est remonté au ciel, il a dit « Tout pouvoir va m'être donné ?» Non, « m'a été donné ». Ça veut dire que son règne a commencé maintenant. Enfin maintenant, il y a 2000 ans. Et que nous, quand on dit « Je veux recevoir le baptême de Jésus », quand on dit « Je veux que Christ soit vivant en moi », quand on proclame « Il est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on reconnaît que maintenant, il règne. Mais comment ça change nos vies? Comment ça vient impacter mon rapport à quoi? À l'argent, à la politique, aux choses, à la carrière, à ma relation avec les voisins, à ma façon d'être époux, épouse, père, mère, fils, fille, frère, sœur. Tout l'enjeu est là. On a platonisé, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a rendu intellectuelle et spirituelle la vie éternelle. Ah, la vie après la mort, on va être comme des anges, on va flotter autour de Dieu. Vous savez ce qui se passe avec le fait qu'on a pensé les choses comme ça? On s'est individualisé. On s'est individualisé. L'Église s'est divisée, s'est subdivisée, s'est subdivisée en tout petits groupes. Mais à la base, on a une grande mission. C'est d'être une bénédiction pour les nations. D'être un témoignage vivant que Christ règne aujourd'hui. Pour ça, on a besoin de le réaliser pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça change? Vous n'êtes pas sauvés pour aller là-haut. Vous êtes sauvés pour vivre éternellement sur terre. C'est ce que dit Paul. La création soupire comme les douleurs de l'enfantement. En espérant quoi? La révélation des enfants de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, elle sera délivrée des forces du néant qui la domine aujourd'hui. Du coup, sauvé pour commencer à vivre maintenant ce règne. Pierre, c'est ta mission. Bon, t'as encore 3 heures avant d'être baptisé. Profite. Non, mais je pense que tu l'as déjà commencé dans ton cœur. Et si je dois résumer ta feuille de route? Si tu dois commencer quelque part pour te dire, bon, ok, comment est-ce que je réforme ma vie par rapport au fait que Jésus règne? Il y a un texte que je te recommande, à partir duquel je crois qu'il faut démarrer. Et vous le trouvez tous dans Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre, pas du ciel. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on rendra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Puisses-tu prendre toutes les propositions, toutes les phrases de Jésus dans ses béatitudes et te dire, ok, et si je prenais vraiment ça au sérieux, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Heureux ceux qui pleurent. C'est vrai? Heureux les doux. C'est vrai? Dans notre monde, à nous, les doux? Non. Il faut être doux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans mon quotidien, dans mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire, heureux ceux qui pleurent? Non, moi je suis digne. Non, je pleure pas. Je vais pas montrer ma faiblesse aux autres. Je veux dire, je suis foutu si je fais ça. Non? Pleurer souvent en public? Non, ça se fait pas. Non, puis ça embarrasse les autres, tu vois. Ils voient mes émotions et ça les embarrasse. Je veux pas être embarrassant. Non, mais j'arrête parce que je vais commencer à détailler toute une. Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande quand le royaume des cieux viendra sur la terre. Soyez tous bénis et renouvelés dans votre vocation. Amen.